www.radio-g.fr.
Chase you out of earth.
bienvenue dans cette émission Génération Sport. Avec moi ce soir pour m'accompagner, on a notre régisseur Mathéo. Bonsoir Mathéo.
Fais déjà des bourdes. Bonsoir, bonsoir Paulin.
Et c'est normal, il faut se remettre dans la main. On n'a plus notre Faustin, national au poste.
Waouh.
Mais t'inquiète pas, je pense que
ça va aller. Des vieux souvenirs de mon côté, au niveau de la technique.
Comment ça va ce soir?
Bah ça va très bien. Écoute, très content. J'ai une journée très chargée. Première conférence de presse Osco, donc forcément, je suis assez content.
Exactement.
Je suis débordant d'énergie. Non, ça va très bien.
Parfait, très bonne nouvelle. Tu pourras d'ailleurs nous en parler.
Exactement.
Avec nous aussi, Paul. Comment ça va, Paul, ce soir?
Ça va très bien, et toi?
Eh ben écoute, ça va super. On va commencer directement par le sommaire de l'émission. Alors évidemment, on va s'attaquer aux actus locales avec du basket, du hand, du volley et du hockey. D'ailleurs, Faustin n'est pas là ce soir, mais il est du côté de l'Ice Park pour voir les Ducs d'Angers affronter Cergy Pontoise. Et on va évidemment parler de cette très belle victoire du SCO face à Lorient. Ensuite, on aura une petite pause musicale, puis on enchaînera sur les actus internationales avec Paul qui nous parlera de la LDC, et puis on parlera de basket, de tennis et aussi de MMA et du UFC avec un combat. Bon voilà, on pourra en discuter un peu plus tard. Exactement. Et on va tout de suite commencer par les activités, les actus local, pardon, et puis ça, on va se diriger du côté des parquets. L'UFAB se déplaçait à Charleville dans la salle de la Guinguette pour y affronter les Flammes Carolo. Malheureusement, la fête n'était pas au rendez-vous à la Guinguette car les joueuses d'Aurélie Bonan ont perdu lourdement 78-47. Une défaite à oublier pour l'UFAB qui doit se relever dès demain en Eurocup face aux Espagnols des Studentes si elles veulent rester à la tête de leur groupe. Elles étaient allées gagner là-bas le 8 octobre et elles tenteront de réitérer cette victoire en Coupe d'Europe. Côté EAB, Faustin nous avait présenté l'affiche de mardi soir dernier où l'EAB recevait l'équipe de Levallois à domicile. Ils se sont brillamment imposés 75-73, provoquant la première défaite en 8 matchs des co-leaders Levallois. Une très belle perf donc des joueurs de John Delay. Malheureusement, ils se sont inclinés vendredi à Toulouse 96-90, marquant une nouvelle défaite à l'extérieur. À noter que sur les 8 matchs joués, leur bilan à domicile est de 3 victoires pour une défaite, contre les 4 défaites en 4 matchs à l'extérieur. Alors on fonce à Jean-Bouin ce vendredi pour encourager les Angevins face à l'équipe de Tarbes qui n'a perdu que 2 matchs sur 8 en ce début de saison. Mais ils ont su montrer qu'ils pouvaient se transcender à domicile devant leur public pour arracher des victoires importantes. Donc on espère que le AB pourra essayer de continuer sur cette belle série de victoires à domicile. Le rendez-vous est pris donc, et c'est vendredi à 20h dans une ambiance d'Halloween. Partons voir désormais la CB Family. Cholet Basket s'est imposé à Bourg-en-Bresse 93-87 et poursuit son très bon début de saison avec 4 victoires en 5 matchs. À noter la belle performance de Daylon Kuntz, l'arrière-shooter américain arrivé cette saison, qui a reçu la ceinture symbolique du meilleur joueur à la fin du match, marqué par un super 4-4 à 3 points. Prochain rendez-vous pour CB et pas des moindres, avec la réception de Le Mans à la Meilleraie dimanche à 18h30. Pour finir côté basket, on avait reçu Nicolas et Maxime il y a 2 semaines, donc coach et assistant coach de l'équipe première de Saint-Barthélemy qui évolue en National 3. Ils se déplaçaient dans la chaude ambiance de la Séguinière samedi soir dernier et se sont malheureusement inclinés 88-73. Mais pas d'inquiétude, ce n'est que leur deuxième défaite en 6 matchs et j'espère qu'ils retrouveront le chemin de la victoire samedi prochain contre Le Mans, car personnellement je serai à la salle et j'ai bien envie de faire la connaissance de cette salle à l'ambiance brésilienne. Toi Mathéo, je sais que tu étais allé les voir. Est-ce que ça avait été chaud au niveau de l'ambiance?
Ouais, bien sûr, c'est toujours marqué, hein. De toute façon, on en a parlé et puis on conseille à nos auditeurs aussi, bien sûr, d'aller écouter l'émission avec Nicolas, bien sûr, mais c'est une ambiance qui est très marquée aussi. Et lui, il en parlait justement, Nicolas, quand il est venu, c'est une ambiance qui est très aussi associative. Forcément, c'est vraiment un club qui est aussi tout jeune dans son expérience de national. Donc forcément, c'est assez marqué. C'est une ambiance très unique dans le département. En tout cas, moi, sur les matchs de basket que j'ai pu suivre, c'était une ambiance vraiment qui bien sûr m'a marqué et que, encore une fois, je me répète, mais que j'ai trouvé assez unique par rapport aux autres.
Ouais, c'est sûr. En tout cas, on leur souhaite de s'imposer. Et puis en plus, ça pourra faire un bel article s'ils gagnent le match. On passe au hand. Oui, le SCO Hand s'est imposé ce week-end 36-33 à Pau et signe leur 3e victoire de la saison. Espérons donc qu'ils pourront continuer sur cette lancée et accrocher de nouvelles victoires. Pour le SCO Volley, les féminines de National 2 se sont brillamment imposées 3 manches à 1 face à l'élan sportif Carpiquet Volley. À l'extérieur, s'il vous plaît. Et pour la N3 masculine, eux se sont malheureusement inclinés sur le même score 3-1, en espérant que les deux équipes feront carton plein ce week-end, car ça me fera un week-end un peu chargé. Je serai aussi à la salle de volley le dimanche pour couvrir le match des féminines à 14h, puis celui des garçons à 16h. Je pourrai donc vous en parler mardi prochain et on espère que je pourrai revenir avec des résumés plein de victoires. Enfin, on termine du côté du football, évidemment, où le SCO s'est imposé devant ses supporters à Copa face à Lorient 2-0 grâce à un but de Prosper Peter, puis de Sidiki Chérif en deuxième mi-temps, lui-même remplaçant de Peter, malheureusement sorti sur blessure peu de temps après avoir inscrit son but en première mi-temps. Une victoire de caractère pour le SCO, marquée par la prestation de deux hommes en particulier. D'abord, notre nouvelle recrue, l'ailier Amin Zbay, très tranchant sur son côté et auteur de la passe décisive sur le premier but après une superbe conduite de balle de quelques mètres, qui m'a bien convaincu, en tout cas vu du stade. J'attendais de le voir au stade pour me faire une idée, et sans aucune surprise, il nous fait un bien fou dans cette attaque sur son côté gauche et s'est procuré aussi deux frappes en première mi-temps qu'il aurait même pu mieux négocier. Dans tous les cas, il est une très bonne nouvelle pour cet effectif angevin. Maintenant, l'homme du match, il est burkinabé et s'impose désormais comme notre nouveau chouchou à tous. C'est évidemment notre gardien Hervé Kofi qui s'est vu arrêter un pénalty et être irréprochable sur sa ligne. Il n'y a pas de doute, et je n'ai même pas peur de le dire, sur ce début de saison, on a peut-être le meilleur gardien de Ligue 1 dans nos cages. Les gars, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette victoire du SCO? Est-ce que vous avez pu l'avoir du stade ou tout simplement suivre le match, Mathéo?
Oui, bien sûr. Moi, je l'ai suivi ce match. C'était un match assez intéressant aussi, voir comment le SCO allait rebondir après les deux dernières rencontres qui étaient plutôt en dents de scie. Il y avait ce très beau match face à Monaco, un match quasiment référence pour le SCO cette année, si ce n'est le match référence, même si c'est pas une victoire, c'est un match nul, mais quand même pouvoir bousculer Monaco de cette manière, ça a été quelque chose de fort. Et puis la défaite, le 5-0 face à Strasbourg, c'est vrai que tu rebondis directement face à Monaco, mais on n'est pas sûr derrière que le SCO va pouvoir continuer sur cette lancée-là. Donc cette victoire face à Lorient, elle est importante, elle est d'autant plus importante que le SCO joue contre Marseille et Lille derrière, donc c'est pas forcément des matchs bonus. Le SCO y va bien sûr pour aller chercher quelque chose, mais c'est quand même des grosses équipes, c'est des équipes qui sont censées battre le SCO, donc forcément c'était des points à prendre et c'est des points qui ont été pris avec la manière, avec le caractère aussi, parce que le SCO a pas du tout été irréprochable. On a eu beaucoup de fautes techniques du côté du SCO, donc c'est une belle victoire. Et en plus, c'est vrai, tu l'as notifié aussi, mais les buts sont quand même vachement beaux, je trouve.
Ouais.
C'est vraiment des très beaux buts. C'est pas juste de la construction, c'est vraiment plus que ça. Ça vient vraiment des individualités. Amin Zbay était vraiment un déclencheur important. Donc moi, le SCO m'a convaincu de plus en plus, malgré cette défaite 5-0 face à Strasbourg. Je trouve que le groupe est très complet. Donc ouais, forcément, je suis très content de cette victoire du SCO et j'ai trouvé que c'était une belle rencontre, en tout cas. Ouais.
Ouais, et tu le dis, on n'a pas forcément été irréprochable. C'est vrai que quand on regarde la majeure partie du match, finalement, on se fait assez dominer. En tout cas, moi, j'ai trouvé au milieu de terrain. Et finalement, les Lorientais ont eu pas mal le pied sur le ballon. Juste, ils ont absolument pas réussi à concrétiser dans les 25 derniers mètres. Et c'est aussi à noter, en tout cas en deuxième mi-temps, l'énorme performance aussi de Camara, qui a été très solide dans les airs, sur les duels aériens. Tous les ballons qui arrivaient dans la surface, c'est lui qui les avait de la tête. Donc, je tiens aussi à féliciter sa performance, parce que quand on sait aussi les saisons compliquées qu'il a eues, évidemment, Hervé Kofi, toi, je me tourne vers toi, Paul, qu'est-ce que tu as pu penser de ce match? Qu'est-ce que tu as pensé aussi? On peut parler d'Amin Zbay et d'Hervé Kofi, évidemment.
Bah, comme tu l'as dit, c'est deux joueurs importants sur ce match-là, mais aussi du coup Chérif, que je trouve qui rentre à la 28e minute après la blessure de Peters, et qui marque son deuxième but en deux matchs, son deuxième but en carrière, et du coup ça montre quand même qu'il est sur une bonne lancée, sur une période où il est très bien, et j'espère que ça va continuer comme ça face à l'OM et face à Lille, faut espérer. Mais en tout cas, c'est un match que je pense qui va faire du bien, parce que déjà on l'avait dit la semaine dernière, Lorient est une équipe qui est à notre portée, c'est une équipe qui va jouer aussi le maintien, et du coup c'est des points importants à prendre. On l'avait pris contre Metz, on le prend maintenant, faut continuer comme ça sur cette lancée. Si je me trompe pas, c'est dans deux semaines, du coup il y a la réception d'Auxerre, ça aussi ça va être un match important, parce que Auxerre est dans le même cas que nous, en bas de tableau, et du coup il va falloir prendre des points. C'est des matchs vraiment très importants, il faut continuer comme ça, parce que il y a une bonne dynamique, le match contre Monaco, cette victoire là, et même si je pense que les deux matchs qui vont arriver vont être plus compliqués, il faut continuer avec cette optique de prendre des points sur chaque match, parce que chaque point va être très important dans cette lutte pour la descente en Ligue 2.
Ouais, complètement. Et tu l'as dit, hein, tu parles de Sidiki Chérif, mais c'est vrai que honnêtement, vu du stade de la tribune Coubertin, donc à l'opposé du but, on comprend pas trop comment est-ce qu'il arrive à marquer ce but-là. C'est-à-dire que déjà il part, il porte la balle et il arrive à passer déjà son défenseur avec une sacrée pointe de vitesse. Derrière, il vient placer la balle et il vient tromper le gardien. Enfin, en tout cas, nous, on était un peu hallucinés dans le stade de voir qu'il a réussi un peu à se créer son occasion et son but tout seul. Et c'était magnifique aussi pour lui, comme tu le dis. Deux buts en deux matchs déjà, c'était son premier but contre Monaco en pro. Et là, il enchaîne en rentrant en sortie de banc. Moi, je trouve que c'est clairement, on le sait, dans le sport, on a besoin d'avoir de la confiance. Et c'est clairement là, ça va lui donner ce boost de confiance. Et s'il peut continuer comme ça, ce sera que positif pour le SCO. Après, je pense qu'il y a aussi des points où on peut dire que forcément, si le pénalty de Lorient n'est pas arrêté par Kofi, peut-être que le match peut être vraiment plus compliqué pour nos Angevins. J'ai envie de parler de la prestation d'Imad Abdelli. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Abdelli au milieu de terrain, un peu plus reculé du coup derrière Louis Mouton avec Belkebla?
Bah, c'est une position dont on a déjà énormément parlé dans l'émission, parce que moi, c'est peut-être la position que je préfère, en tout cas, d'Abdelli, parce que c'est une position qui le force à avoir de l'envie sur le terrain. Et on sait que Abdelli, quand il a de l'envie, il sait faire quelque chose. Donc forcément, oui, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je trouve qu'il a vraiment une manière de défendre aussi, pour un joueur qui est habitué à être numéro 10, qui est assez marquante. Et il apporte vraiment un vrai complément à ce tandem entre Belgim et Belkebla. Donc sa position, elle est vraiment intéressante. Et je pense que c'est toute la tactique du jeu qui s'est jouée là. C'est-à-dire qu'il a deux positions d'équipe qui sont possibles. Une équipe un peu plus de possession, ou en tout cas qui fait plus le jeu, avec un Abdelli plus haut, Louis Mouton plus haut aussi. On l'a vu cette année, c'était un peu une grande première dans sa carrière, en tout cas, de pouvoir le voir jouer aussi haut sur le terrain. Et puis une capacité aussi à jouer un bloc plus bas. Aujourd'hui, d'avoir des joueurs comme Amin Sbaï ou Sidiki Chérif qui en contre-attaque sont capables de faire des différences très marquantes, parce que je t'assure aussi, vu de la télé, c'était aussi impressionnant. J'ai pas du tout compris même la finition à la fin, comment il la met. Enfin, c'était vraiment l'angle parfait. Donc forcément, oui, cette position d'Imad Abdelli est très bonne, et il y a vraiment surtout une complémentarité avec Louis Mouton dans le profil, que je trouve vraiment intéressante, et deux joueurs qui performent beaucoup à ce niveau-là.
Ouais. Ouais, c'est sûr. Et puis quand on voit en fait cet effectif du SCO, c'est vrai que Belkedim, il est pas dans sa position naturelle au départ en fait, parce qu'il est plutôt amené à évoluer à droite, sauf que quand on voit le match en fait, c'est vrai qu'il est tout le temps attiré par cet axe central, par ce milieu de terrain, et c'est pour ça que en fait moi le joueur vraiment qui m'a marqué sur ce match, c'est Amin Sbaï, parce que là on voit qu'on a retrouvé en fait un ailier, et que finalement du coup grâce à lui, on peut avoir aussi ses projections et finalement ce rôle qu'on pouvait avoir quand on avait par exemple des Jim Alevina ou autres, où vraiment en fait ça va être des joueurs qui vont provoquer sur le côté. Et en fait on l'a vu tout de suite, il y a une action où il arrive à combiner avec Abdelli directement dans le sens du jeu, il a une frappe, la frappe elle est peut-être un peu écrasée, il en a deux, il peut faire mieux, mais enfin déjà en fait nous par exemple c'était vraiment face à la tribune Coubertin, et ça ramenait de l'engouement parce que tout de suite il se passait quelque chose. On a fait 5-6 passes enchaînées, on était dans la surface des Lorientais, et derrière sur le premier but de Peter, il y a une possession de balle, il y a plus de 30 passes qui sont effectuées. Derrière, il y a ce contrôle orienté d'Amin Sbaï qui avance, qui fait la passe avec un superbe appel de Prosper Peter. Pour le coup, là, c'est une action de football qu'on peut que aimer, et ça vient aussi montrer que ce SCO peut avoir des qualités. Donc là, le SCO se déplace à Marseille demain soir. Il serait super vraiment d'arriver à faire un résultat au Vélodrome. Ça risque d'être compliqué. Je me tourne vers toi, Mathéo, du coup, parce que tu as assisté à la conférence de presse de Dujeu et Jordan Lefort cet après-midi. Est-ce que tu peux nous en parler de ce qui s'est un petit peu dit à travers ça?
Pas mal de positifs quand même à ce niveau-là, en tout cas de ce que eux ont dit. Forcément, ils y vont avec une envie d'aller chercher des points, ça c'est évident. Vraiment, ce que je tiens à souligner, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais Dujeu, il a vraiment parlé d'un match qui n'est pas un match bonus, qui reste un match important, parce que le SCO a eu la capacité aussi d'aller chercher des points l'année dernière, et même cette année face à des gros clubs. L'année dernière, le SCO quand même va chercher ce point au Vélodrome,
complètement.
Une victoire aussi à Louis II. Donc le SCO à l'extérieur, c'est une équipe qui peut être plutôt dangereuse. C'est une équipe qui a retrouver aussi de la stabilité, comme c'était le cas quand même en fin de saison dernière, et puis plus largement depuis janvier. Donc c'est vrai que c'est globalement ce qui a été mis en avant. On n'a pas eu une tactique vraiment qui nous a été offerte à ce niveau-là, mais Dujeu, il a quand même dit aussi qu'il fallait faire des changements, qu'il avait potentiellement son 11. Un 11 qui est assez mouvant. Déjà, il avait dans l'idée, forcément, quand tu as trois matchs en une semaine, de changer en tout cas des joueurs au sein de ce 11 là, et il avait dans l'idée déjà de titulariser Sidiki Chérif aussi. Ça, c'est quand même important de le notifier, parce que du coup Prosper Peter est out, sûr et certain là. C'est même peut-être pour le match face à Lille, même voire plus en tout cas, parce que l'indisponibilité a pas filtré, donc c'est une rencontre qui va forcément être compliqué face à une équipe de Marseille, ou en tout cas que ce soit Lefort ou que ce soit Alexandre Dujeu, on louait en tout cas les qualités offensives, bien sûr. Maintenant, Angers commence à trouver aussi un certain rythme défensif, un bloc, et d'ailleurs Jordan Lefort aussi a tenu à le notifier, mais ce bloc défensif, il n'est pas que on va dire animé par 5 joueurs, pas uniquement par les 4 défenseurs et le gardien, c'est vraiment toute une équipe, et ça rejoint globalement tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure avec le fait de voir Louis Mouton, Imad Abdelli aussi plus bas. Donc c'est vraiment la positivité en tout cas qui ressort, parce que le SCO on a fait le plein et que le SCO se déplace avec avec beaucoup d'envie. Donc forcément il y a vraiment moyen de faire un point, en tout cas de ce que j'ai entendu. Oui, c'est de la positivité en tout cas qui découle de ça.
Ouais. Ouais, ben on espère justement que ça pourra continuer. En plus, pour le coup, ça fait plaisir aussi. Mais on a eu un soir de victoire et on a eu aussi une belle communion dans ce stade de Raymond Kopa, avec des joueurs qui viennent toujours saluer leur public, un clapping à la fin qui montre que voilà, on est derrière nos joueurs. Forcément, revoir des images comme ça aussi après une victoire, parce que ça reste quand même que la deuxième de la saison, c'est des choses qui font plaisir. Pour ma part, j'ai fait 2 déplacements à Kopa, 2 victoires. Donc si ça pouvait rester comme ça, ça m'ira très bien. Et puis on espère que contre Marseille, ça pourra donner quelque chose. En tous les cas, après la pause musicale, toi Mathéo, tu nous parleras de la Ligue 1 et de ce qui s'est passé sur cette journée, et puis on abordera aussi la Ligue des Champions et plein d'autres sujets. En tout cas, on va passer à la pause musicale, Mathéo.
Ouais, carrément. Juste je vais, avant de passer au son, juste j'avais un autre mot qui me restait en tête par rapport à cette conférence de presse, c'est la résilience. Tu parles de groupe.
Oui.
C'est la résilience avant tout. Ça a été plutôt marquant hein, quand on a fait la conférence de presse sur le cas d'Ousmane Camara, forcément, qui est resté 2 ans au placard, qui s'est affûté, vraiment, enfin c'est le symbole de la résilience en Svin à ce niveau-là, et on a beaucoup de joueurs qui étaient dans son cas et qui aujourd'hui performent au SCO, donc c'est vraiment le mot qui reste en bouche. Donc forcément c'est sur ça aussi qu'on va faire attention sur les prochaines semaines. Et comme tu l'as dit, on va passer à la pause musicale maintenant. J'ai préparé une petite musique américaine cette fois-ci, parce que je sais que Faustin il aime bien le rap français. J'ai envie aussi de porter un peu le rap américain, avec Business Merger de Hit Boy avec The Alchemist sur le projet qui est sorti vendredi, qui s'appelle Goldfish. Je vous conseille d'aller l'écouter, c'est du très bon rap, c'est du caviar comme on dit.
Yeah. Out. HB. West Coast. Yeah. Eyes closed and my heart open, just to get this off my chest and left my heart broken. Seeing how goofies are move for the green, saying we on the same team, but what do that mean? Why build a bridge just to watch niggas set it ablaze? Don't get me heated, ain't no way to control the inferno. Feel the spirit of prodigy, I've been keeping it thorough. I'd rather do it by my lonely than fake with the pack. And if you can't stay down, then stay where you at. I feel like we the new standard. I'm going over the matters from information I gathered. I'm finding the answers. I've been reading over the chapters. They doctoring up the numbers, forging all of their data. My godly values speak at high volumes without ever having to be the loudest in the room. I move like a commander in the military. You ain't even qualified. Get past the preliminaries. Separate a war winner from a war presenter. I seen some evil done. I'm still shaking off the jitters. I'm coming with the thunder. Yeah, I'm going Thor with the hammer. Was counting 6, 7, 8 before I lived in Atlanta. It's my heart that make me different. This link is apocalyptic. Me and out, moving pure to niggas in our division. I'm tired of acting like this shit ain't watered down for real. Fucking 9 to 5, or you can't relate to this type of feel. Nah. Gave you boys a break, now y'all gotta deal with me. I try to give them the game, they ain't keep it real with me. I had homies, I was supposed to come up and get rich with me. I had some shorties, I was supposed to stay down and have kids with me. Long story, it's a lot. Now my circle's so small that it's closer to a dot. They thought I was repping Grape Street. I'm turning up the whites while I'm beating up the pots.
Right now I'm speaking with my chest out. Smoke to prevent from getting stressed out. The Lamborghini got the breast out. I'm working with a different type of textile. Everything simple, Janet, and a protect out. I'm not a vegan, I'm a reptile. My appetite for destruction is very trifling, no ciphering. Don't go to clubs if I can't sneak a rifling. Got paper in circulation, we keep it cycling, spinning. We don't do collaboration, it's a business merger. Cut a pie, split a burger, and make it stretch like a fitness worker. I'm on my shit for certain. On stage checking the mic behind a custom Dr. Romanelli curtain. I give you extra cuts like a deluxe version. Couple stripes when I'm finished, you need a cut surgeon. Hits drumming, got the truck swerving. Meetings with a tuck shirt in. You can never put enough work in. I put a couple $100,000 in. Days without showering. No face to put a flower in. No paper to put the towel in. Still no way I'ma throw the towel in. Me and HB standing 5'7" and still looking down on bums and towering.
Never heard it like this.
back to back, beat for beat, ayy. Bring it back. I gave you boys a break, now y'all gotta deal with me. I try to give them the game, they ain't keep it real with me. I had homies out, supposed to come up and get rich with me. I had some shorties out, supposed to stay down and have kids with me. Long story, it's a lot. Now my circle's so small that it's closer to a dot. They thought I was repping Grape Street. I'm turning up the watts, nigga, beating up the pots, yeah.
Business Merger de Hit Boy avec The Alchemist sur le 101.5. Vous êtes toujours à l'écoute de Génération Sport. On est en direct à la radio, bien sûr, en direct sur le site internet aussi, radio-g.fr, et également sur le YouTube de la radio. Petite nouveauté, on avait été sur Twitch il y a 2 semaines, je crois. Là, on est sur YouTube. Voilà, on bouge un petit peu. On essaie de toucher à tout. On vous parlait du SCO, des actualités locales. On passe aux actualités nationales, puis international avec la Ligue 1 pour commencer, la 9e journée de Ligue 1 qui était moins prolifique que la précédente, 26 buts contre 25 avec pour commencer cette victoire de Nantes face au Paris FC vendredi, notamment avec ce sublime but victorieux de Mathis Ablin. Samedi, c'est Brest qui s'est incliné à domicile contre le PSG 3-0. Monaco a rebondi face à Toulouse avec cette victoire 1-0 qui fait du bien mais qui prouve encore que les problèmes de jeu de la SM ne sont pas réglés. Et puis fin de journée, c'est Lens qui a battu l'OM, victoire surprise notamment acquise avec un match assez horrible de Benjamin Pavard, fautif sur le pénalty qui a ensuite inscrit un CSC. Et puis dimanche, c'est le LOSC qui a infligé une nouvelle correction à Metz, 6-1. D'ailleurs, pour le petit fun fact, lorsque Bordeaux réalise la pire saison pour une défense en Ligue 1 lors de sa descente avec 91 buts pris, les Bordelais affichaient un bilan de 20 buts après 9 journées. Metz en est à 26. C'est un assez triste bilan. Le SCO a donc battu Lorient. Ensuite, Auxerre a perdu face au Havre 1-0 qui retrouve des couleurs. Rennes s'est incliné aussi face à Nice 2-1 à domicile. Et puis l'Olympique Lyonnais s'est imposé à la toute dernière minute sur un bijou, un diamant brut d'Afonso Moreira. C'est lui qui a volé les bijoux du Louvre pour les mettre dans cette frappe exceptionnelle. Aucun clubisme ici, on le rappelle.
En tout cas, au classement. Très objectif, évidemment.
Bien sûr. C'était un but magnifique quand même.
Oh, il était très beau. Non, pour le coup, il était très beau.
Ah, il était. J'ai pété un plomb. Quand je l'ai vu.
Normal. Puis ça vient en fin de match en plus. Donc, parfait. Ouais,
forcément. En tout cas, au classement, l'OM laisse sa place au PSG, même sa place de dauphin, puisque c'est Lens qui est désormais deuxième, suivi des Olympiens, de l'Olympique Lyonnais et de Lille. Dans le bas du classement, hormis Metz, qui reste bon dernier, les cartes sont légèrement rebattu puisque le SCO et Nantes se donnent de l'air et laissent un peu de place aux autres équipes, notamment la place de relégable et de barragiste à Auxerre et Lorient. Le prochain match, c'est demain, en tout cas les prochains matchs, puisqu'on aura une sorte de multiplex demain avec 5 rencontres à 21h05 et 4 rencontres à 19h. Je me tourne vers vous quand même. On a un gros calendrier là en ce moment sur la Ligue 1 avec trois matchs en l'espace d'une semaine en plus des matchs européens. On sait que, comme tu nous l'as dit tout à l'heure Paul en antenne, la Ligue 1 a fait ce championnat à 34 justement, enfin 34 journées à 18 équipes justement pour avoir la possibilité d'avoir un calendrier assez allégé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce calendrier là qui est vachement restreint avec en plus cette année, on le sait, des équipes moins riches, avec des effectifs peut-être moins garnis. Comment est-ce que ça va se profiler pour vous, notamment pour les différents clubs, les plus petites comme les grosses équipes? Voilà.
Bah, écoute, moi je pense que en fonction de ce qu'on peut voir, et puis bah quand on voit la plupart des clubs qui évoluent en compétition européenne, c'est vrai que ça peut commencer à être compliqué pour les joueurs. Là, ils ont eu un match ce week-end, ils en ont un mercredi, sachant que toutes les équipes jouent demain pour derrière rejouer ce week-end. Forcément, si la profondeur d'effectifs, en fait là c'est la question, c'est de se poser hein, quand tu regardes ton équipe et ton club, est-ce que moi j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir faire tourner mon groupe? Et donc, sachant que c'est pareil en fonction des affiches que tu vas jouer, si tu es une équipe qui joue potentiellement les places européennes et que tu joues allez une équipe dans les places relégables, tu te dis que potentiellement ça va être le moment de faire un turnover. À l'inverse, si t'as pas cette possibilité justement de te laisser une fenêtre de tir pour laisser un match ou pour pouvoir faire tourner ton effectif, bah là ça te met en difficulté parce que les joueurs ils vont voilà essayer de redonner des efforts et forcément ça va être plus compliqué, ça va amener de la fatigue, forcément des performances peut-être un peu moindres. Donc ouais, c'est toute une question qui revient. Faudrait voir, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va se reproduire beaucoup dans la saison, d'avoir des journées comme ça là du mercredi où on a un multiplex énorme parce que bah forcément il y a les coupes de France qui rentrent en jeu. à voir. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'on peut se poser des questions quant à la santé des joueurs. Et de toute façon, on en revient toujours à cette question du calendrier qui devient assez énorme et sûrement dur à encaisser pour les joueurs.
C'est vrai que le côté chargé du calendrier, on l'a pas vu énormément bouger depuis que la Ligue 1 est à 18. Paul, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, justement, aussi de voir que qu'on a toujours autant de matchs et que les clubs et les joueurs ne respirent presque plus, surtout pour les internationaux?
Bah c'est ça. Enfin, tu le dis même, c'est arrivé plusieurs fois dans les conférences de presse que des joueurs se plaignent de ce calendrier qui est à rallonge, qui dure trop longtemps. Enfin, on l'a vu l'année dernière avec la Coupe du Monde des clubs, qui était vraiment genre une compétition un peu en trop quand même. Et du coup, enfin, c'était en 2020, du coup, que la Coupe de la Ligue a été clôturée. Du coup, c'était pour déjà alléger le calendrier. Après, passer à 34 journées pour pouvoir encore l'alléger. Et là, on rajoute des compétitions, sachant que, cette saison, on sait très bien que ça va être compliqué parce que, à la fin de la saison, il y a la Coupe du Monde. Du coup, beaucoup d'internationaux vont être pris par cette compétition. Du coup, je pense que ça va encore et encore faire souffrir les joueurs. Surtout, on peut prendre encore l'exemple des joueurs du Paris Saint-Germain qui reviennent à peine pour certaines blessures. Du coup, encore avoir beaucoup de matchs dans les prochaines semaines, ça va peut-être amener quand même encore des blessures.
Si on essaie de trouver un coupable aussi à ces calendriers, c'est peut-être les trêves internationales aussi qui sont assez nombreuses. Là, on en a une il y a trois semaines. De trois semaines, on en a une en novembre.
Oui, dans deux semaines.
Donc ça fait presque un mois en fait de compétition où tu dois faire rentrer les compétitions européennes, les compétitions nationales, parfois les coupes aussi qui commencent à arriver dans pas mal de pays européens. Paulin, toi, qu'est-ce que t'en penses honnêtement? Est-ce que véritablement on a eu une recrudescence des matchs internationaux ou alors c'est une mauvaise gestion de calendrier pure et dure?
Après, c'est compliqué parce que de toute façon, les matchs internationaux, t'en as forcément besoin parce que là, on va être dans une année de Coupe du Monde 2026, donc forcément, que ce soit la France ou autre équipe, il y a des matchs de qualification à jouer, même si après c'est pour l'Euro. Enfin, forcément, ces matchs-là, ils vont devoir avoir lieu à un moment donné. Derrière, c'est ça, c'est trouver des solutions pour essayer de faire en sorte que ça va pas, que ça n'influe pas, que t'arrives à réussir à filer. Alors après, c'est toute la question parce que tu peux pas commencer le championnat plus tôt, le championnat commence déjà assez tôt. Quand on est justement dans des années de Coupe du Monde comme ça, on va avoir la Coupe du Monde, les joueurs vont avoir peu de repos, ils vont direct enchaîner avec le championnat. Enfin, c'est des choses qu'on a eues qui sont en répétition et je pense que oui. Alors moi, j'ai pas forcément de solution, mais juste c'est un constat en fait qu'on peut faire et se dire que forcément avec les compétitions internationales, tout ce qui s'ensuit, et puis en fait c'est surtout aussi quand on est dans cette année, quand on est dans l'année de Coupe du Monde, quand on l'avait eu la dernière fois au Qatar où c'était tombé en plein milieu d'une saison, ça avait rallongé aussi, ça avait créé de nombreuses blessures, donc ouais, c'est toute une question en fait qui mérite de se poser la question, mais je pense pas qu'il va y avoir en fait un réel changement parce que j'ai l'impression que comme c'est maintenant, ils peuvent pas forcément faire mieux justement au vu du calendrier qu'on a devant nous.
Oui, c'est assez évident à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de compétition en fait qu'on peut enlever, si ce n'est peut-être des compétitions internationales et étirer le bloc, par exemple le bloc qualification pour la Coupe du Monde sur 2 ans. Mais pareil, ça serait
ouais,
assez
enlever la Ligue des Nations du coup.
Exactement, c'est ça. C'est, en ça, fait. Ouais. C'est la Ligue des Nations du coup qui reste un peu où tu te dis potentiellement c'est ça qui pourrait sauter. Après, faut voir aussi par exemple si on regarde en Angleterre pour le coup eux. Leur coupe de la Ligue à eux, ils l'ont encore. Okay. Et en fait, les en première ligue, enfin les joueurs qui jouent en Angleterre, ils jouent encore la première ligue, ils jouent le FL Cup et la FA Cup. Et donc ça fait que nous par rapport à ça, on a aussi enlevé cette coupe de la Ligue par rapport à d'autres championnats, c'est pas le cas. Donc
ils sont 38 aussi au PL. Du coup, par rapport à nous, enfin sur ce point-là, c'est pas pareil.
Mmh, c'est sûr.
Oui, et puis il y a aussi des effectifs qui ont une profondeur beaucoup plus
grande. Pour le coup, oui, la profondeur d'effectifs n'est pas la même et le plan financier n'est pas le même également, ce qui fait que tu as la possibilité d'avoir un effectif beaucoup plus rempli et de pouvoir aussi ramener des jeunes joueurs, du coup, potentiellement assez jeunes comme Max Domann dont on parlait côté Arsenal, qui peuvent aussi venir renforcer ton effectif quand c'est des matchs de coupe comme ils sont en train de jouer ce soir.
Bien sûr, on va voir comment ça va se profiler pour les calendriers sur les prochaines semaines. En tout cas, ce qui est passé est passé. Et ce qui est passé, c'est notamment la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Conference League avec toi, Paul.
Et oui, mardi dernier, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Bayer Leverkusen, marqué par le retour dans le groupe du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Après seulement 7 minutes de jeu, William Pacho ouvrait le score d'une superbe tête. À la 33e minute, Robert Hendrich laissait les locaux à 10 contre 11 avant qu'Ilia Zebarni ne limite, offrant même un pénalty transformé par Alex Garcia. Mais juste avant la pause, les Parisiens prenaient clairement l'avantage en inscrivant 3 buts en moins de 7 minutes, un doublé de Désiré Doué et un but du géorgien Gvisha Kvaratskhelia. Retour des vestiaires. La domination parisienne se poursuivait. Nuno Mendes portait le score à 5-1 avant qu'Alex Garcia ne réduise l'écart, signant un doublé. Insuffisant toutefois, Ousmane Dembélé puis Vitinha à la 90e achevaient les espoirs allemands. Le PSG s'impose ainsi largement 7-2 et prend la tête du classement. Dans la même soirée, le FC Barcelone a écrasé l'Olympiakos 6-1, porté par un triplé de Fermín López. Le Kayart Almaty et Paphos se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0. Arsenal s'est imposé 4-0 face à l'Atlético Madrid dans ce duel de Haram Ball, tandis que le Borussia Dortmund a gagné 4-2 au Danemark contre Copenhague. De son côté, Newcastle n'a laissé aucune chance à Benfica et s'est imposé 3-0. Le PSV Eindhoven a surclassé 6-2 Naples. L'Inter Milan a dominé l'Union Saint-Gilloise 4-0. Et enfin, Manchester City a battu Villarreal sur le score de 2-0. Le lendemain, l'Olympique de Marseille se déplaçait au Portugal pour affronter le Sporting Portugal. Après une bonne entame de match du côté marseillais, Igor Paixão ouvrait le score d'une superbe frappe enroulée. Peu avant la mi-temps, les Marseillais pensaient obtenir un pénalty, mais après recours à la VAR, l'arbitre estimait qu'Emerson s'était laissé tomber. Le défenseur marseillais écopait alors d'un carton jaune, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11. En seconde période, l'OM résistait longtemps aux assauts portugais avant d'encaisser l'égalisation de Gini Catamo à la 69e minute. Les locaux continuent de pousser et font craquer ainsi les visiteurs à la 88e minute pour s'offrir la victoire. Une défaite au goût amer pour les Marseillais qui pourront nourrir de regrets. On ne saura jamais ce qu'aurait donné ce match à 11 contre 11 pendant la seconde période. Dans le même temps, Monaco recevait Tottenham avec l'ambition d'engranger des points et de poursuivre sur la dynamique de son match nul face à Manchester City. La rencontre a tourné au duel des gardiens, se tenant sur un score nul et vierge 0-0. Dominateurs, les hommes de Sébastien Pocognoli n'ont pas pu concrétiser leurs actions dans le dernier geste. Entre manque de réussite et prestations exceptionnelles du portier italien, Vicario, excuse-moi. Il y avait pourtant largement la place pour faire mieux, mais les monégasques doivent se contenter de leur deuxième point et occupent désormais la 27e place du classement. Dans le même temps, le Real de Madrid est venu à bout de la Juventus de Turin sur le score de 1-0. L'Athletic Bilbao s'est imposé 3-1 face à Karabakh, tandis que Galatasaray a remporté sa rencontre contre Bodoglimt sur le même score. L'Atalanta et le Slavia Prague se sont quittés sur le score nul et vierge de 0-0. Chelsea et Liverpool ont écrasé respectivement l'Ajax et Francfort 5-1. Et enfin, le Bayern Munich n'a rien laissé au club bruges s'imposant 4-0. Messieurs, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette semaine de LDC. Est-ce que vous avez des matchs qui ont été intéressants pour vous et qui vous ont marqué?
Déjà, c'est tout simplement juste, on va dire, la première soirée du mardi, quand même une soirée historique avec le plus grand nombre de buts enregistrés. Vu qu'on a fini l'émission, forcément, on peut pas trop suivre les matchs dès le début. Donc moi, j'étais sur le multiplex. Au début, j'écoutais à la radio dans la voiture. Autant vous dire que la petite musique sonnait toutes les deux minutes. Puis après, la deuxième mi-temps, pareil, quoi, des buts de partout. C'était assez hallucinant. Pour le coup, c'était assez plaisant parce que, en fait, en suivant Paris la première mi-temps, il y a eu 4-1 à la mi-temps. Bon bah match plié. Donc derrière, en fait, moi je me suis dit bon, je vais sur le multi comme ça, je vais pouvoir voir un peu ce qui se passe. Puis alors des buts de partout. Mais forcément, le match qu'on retient, c'est quand même ce 7-2 de Paris qui est quand même assez incroyable parce que le scénario du match est fou. Entre le premier rouge, enfin le penalty aussi provoqué, arrêté par Lucas Chevalier. Puis derrière tous les événements qui se passent pour que finalement ça se finisse sur un 7-2. Enfin c'était assez fou. Et après le petit regret qu'on peut nourrir, c'est et pour Marseille avec cette terrible simulation d'Emerson. Tu sais que t'as un jaune, je suis désolé, tu peux pas faire ça. Puis il y a un Pavard aussi assez fautif sur les deux buts. Et puis Monaco qui a eu énormément d'occasions face à Tottenham et ça aurait été très bien pour eux de gagner, mais malheureusement c'est resté sur un match nul 0-0.
Effectivement, je pense que t'as tout dit par rapport au club français en Ligue des Champions. C'est vrai que le match de Paris, c'était un match pour les parieurs, hein. Dans tous les cas, c'était quelque chose d'assez marqué. Et puis après, en Ligue Europa, on a eu encore Nice qui, du coup, n'a pas su gagner. Encore une fois, j'ai failli croire au 1 partout.
Hein. Ah ouais, j'y ai cru aussi.
Et puis finalement, on a eu le 2-1. Et puis sinon, c'est vrai que si on parle de l'Olympique Lyonnais, bon, je vais en parler très brièvement parce que sinon, je vais m'étaler. Mais forcément, une victoire intéressante avec beaucoup de concessions aussi. Mais je pense que ça a été une plutôt bonne semaine quand même pour les clubs français. Alors certes, Marseille a pas su faire le travail face au Sporting, mais parce que aussi le Sporting depuis quelques saisons, on le sait, c'est une équipe piège aussi quand on est une équipe d'un des cinq grands championnats. Donc Non, forcément très très content aussi de la performance de nos clubs français à ce niveau-là.
Ouais. Ouais, et puis il y a simplement le petit bémol, c'est pour Strasbourg, parce que Strasbourg qui affrontait le club du Jagiellonia, c'est pas facile à dire, mais c'est un club polonais, et il a fallu attendre la rentrée de Panichelli pour nous mettre une retournée encore fantastique. Vraiment, lui, il est exceptionnel. Moi, là, je fais que me brancher Strasbourg, parce que à chaque fois, j'essaie de voir, et d'ailleurs, il a marqué aussi contre ton OL, hein, forcément, même si, bon... Il y a eu la défaite, mais franchement, non, mais incroyable. Derrière, ils ont poussé, mais ils n'ont pas réussi à gagner. C'est peut-être le petit bémol, parce que franchement, il y avait la place pour les Strasbourgeois de pouvoir récupérer 3 points suite à cette rencontre. Mais bon, en tout cas, on va clore cette partie du football européen, et puis on aura l'occasion d'en reparler évidemment plus tard. Moi, comme vous le savez, j'adore regarder le football anglais. J'ai pu aller voir 2 matchs en Angleterre cette année, et comme à mon habitude, je vous emmène faire un tour d'horizon des pelouses anglaises afin de faire un point sur le classement. Après 9 journées, le championnat anglais nous livre de très belles surprises dans ce début de saison, notamment avec la présence de Bournemouth et Sunderland dans le top 5 du championnat, respectivement 2e et 4e, alors que Liverpool se positionne 7e juste derrière Manchester United. Et oui, c'est limite dur à y croire, mais c'est pourtant bien le cas, car les hommes d'Arne Slot ont enchaîné 4 défaites de suite après avoir commencé la saison sur 5 victoires. Rien ne va plus pour les Reds, et il va vite falloir trouver des solutions pour ne pas rester malade. Des malades, il y en a d'autres dans ce championnat, et ce sont principalement les Wolves bloqués à 2 petits points, et West à 4 points en 9 journées, déjà promis à une relégation quasi inévitable tant les deux équipes proposent un niveau de jeu catastrophique sans montrer aucun caractère, se montrant comme déjà vaincu et prêt à subir cette saison de Première Ligue. L'autre malade pour le moins surprenant, tant ils avaient été remarquables la saison dernière jusqu'à même obtenir un ticket pour la Ligue Europa, c'est Nottingham Forest, actuel 18e avec seulement 5 points, qui voit Sean Dyche être le 3e coach en ce début de saison sur le banc de Forest, en espérant qu'il puisse conserver son poste plus longtemps que Postecoglou. Mais si ça a mal commencé avec la défaite 2-0 face à Bournemouth ce week-end. Mais qui va finir vainqueur de cette Première Ligue ? En l'état, il y a bien une équipe qui domine les débats en ce début de saison, et si c'était enfin l'heure de revenir sur le devant de la scène pour Arsenal, après avoir fini 2e 3 saisons de suite, c'est peut-être le moment pour Arsenal de profiter d'un Liverpool méconnaissable et d'un Manchester City encore friable, en témoigne leur défaite à Villa Park face à Aston Villa ce week-end. L'effectif est complet et bien rodé pour les Gunners, ils n'ont perdu qu'un match toute compétition confondue cette saison face à Liverpool. Alors je vous pose la question, messieurs, est-ce enfin la saison pour Arsenal ?
C'est assez tôt pour se projeter, forcément, surtout quand on connaît un petit peu comment se passe la Première Ligue. Hein, généralement, on peut avoir une équipe qui, comme les saisons précédentes, ça a été le cas pour Arsenal, hein, d'ailleurs, mais qui va faire un début de saison canon et puis qui, derrière, va forcément baisser en régime ou au moins se faire rattraper par d'autres équipes. On sait que ça a pendant longtemps aussi été le système de Manchester City, au moins sur les 2 dernières années de sacre. Donc forcément, c'est tôt pour se projeter. Après, cette équipe d'Arsenal, ça fait longtemps que la constance, elle est là. Donc forcément, là, il y a une baisse de régime de la part de City, de la part aussi de Liverpool, un petit peu qui galère à trouver ses marques, en tout cas au niveau de ses recrues. Donc, hors Hugo et Kitike, bien sûr. Mais forcément, oui, en soi, ça peut être l'année pour Arsenal. Nous, c'est ce qu'on souhaite. L'effectif s'est largement amélioré par rapport à l'année dernière, avec aussi des joueurs qui performent, hein, forcément. Parce que déjà, Gyökeres commence aussi à stater. On a Zubimendi qui quand même fait des matchs, je trouve, assez solides depuis qu'il est là aussi. Donc forcément, et puis derrière, on a d'autres joueurs qui sont arrivés et qui commencent à se montrer aussi. Donc bien sûr, cette équipe d'Arsenal elle est assez intéressante. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Paul, surtout que derrière les équipes qui poussent, c'est des équipes qui sont plus petites, qui vont peut-être avoir une baisse de régime. Aujourd'hui, la concurrence, en tout cas, on n'arrive pas à la définir pour Arsenal.
Bah non, parce que on a bien vu, Liverpool, malgré les 500 millions dépensés, n'ont pas réussi pour l'instant à prendre le train pour le titre. Arsenal commence bien, puisque quand même, ça fait plusieurs saisons qu'ils sont devant. Comme tu l'as dit, c'est peut-être enfin la bonne saison, mais derrière, t'as quand même Sunderland et Bournemouth, on ne sait jamais. Peut-être un remake de Leicester en 2016. Mais sinon, je pense que c'est peut-être enfin la bonne saison, parce que déjà, t'as un numéro 9 qui stat. T'as des joueurs qui derrière ont envie. Depuis l'arrivée d'Eze, Martinelli, on a retrouvé un Martinelli convaincant qui joue vraiment un beau football. Et derrière, t'as, comme tu l'as dit, Zubimendi qui marche bien, Rice, qui nous fait du Rice comme depuis qu'il arrive à Arsenal, et toujours une défense aussi solide qui fait toujours du bon travail. Donc je pense honnêtement c'est la bonne saison, mais on sait jamais avec les surprises qui peuvent arriver.
Ouais, complètement, moi je suis bien d'accord avec vous. En l'état, il commence aussi et quand même à prendre un petit peu d'avance avec les mauvais résultats forcément de Liverpool et de City. Moi je pense qu'il y a la place pour Arsenal, mais comme tu l'as très bien dit Mathéo, la saison de Première Ligue est longue, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut très bien y avoir des blessures, surtout quand on connaît les joueurs qu'il y a du côté d'Arsenal.
Bukayo Saka est indispensable pour cette équipe, mais est amené à se blesser assez régulièrement. On verra comment ça peut se passer, mais en tout cas, pour l'instant, ça part bien pour Arsenal et les Gunners. On va passer de la balle ronde à la balle jaune, parce que le tennis fait son retour à Paris, non pas sur la terre battue de Roland-Garros, mais sur le dur de la Paris Défense Arena, où a lieu cette semaine le Masters 1000 de Paris. Un casting XXL avec la présence d'Alcaraz, Sinner et les membres du top 10, sauf Djokovic, qui a annoncé son retrait quelques jours avant la compétition. Mais rappelant que nous sommes chez nous, alors c'est bien beau de se déplacer pour voir les meilleurs joueurs mondiaux, mais je me permets de vous rappeler qu'on a un Français finaliste du dernier Masters 1000 dans ce tournoi, et tiens, bah, il y a également le vainqueur de ce dernier Masters 1000 à Shanghai. Et oui, Arthur Hinderknecht et Valentin Vachereau font leur retour en Masters 1000 après leur incroyable épopée à Shanghai, où c'est le Monégasque qui avait eu le dernier mot face à, je le rappelle, son cousin. Ils avaient alors écrit une des plus belles histoires du tennis et du sport, comme j'aime si bien le rappeler. Mais leur histoire ne s'arrête pas là, car hier et aujourd'hui, les deux joueurs ont effectué leur premier tour. Le Français Hinderknecht a lutté, mais s'est imposé 2-7 à 0 face au Hongrois Marojan. Et son cousin Monégasque a littéralement balayé le Tchèque Leshka en 55 minutes, s'il vous plaît. Son match a été parfait de bout en bout, et on sent que son titre l'a complètement fait changer de dimension et qu'une énorme confiance l'habite. Alors j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première, qu'on pourrait qualifier de mauvaise, et que les cousins ne pourront pas nous offrir le même exploit qu'à Shanghai en se retrouvant en finale. La bonne, c'est que leur cousinade repart pour un acte 2 demain, car le hasard du tableau a fait qu'il se retrouve dès le deuxième tour du tournoi. L'occasion pour Arthur de tenter de prendre sa revanche sur son cousin, même si l'enjeu est bien différent entre remporter le premier Masters 1000 de leur histoire et jouer pour une place au troisième tour d'un Masters. Évidemment, c'est pas pareil. Même si ce troisième tour s'avère être à 99% de chance contre Alcaraz, qui affronte en ce moment le Britannique Cameron Norrie au deuxième tour, ce qui ne devrait pas lui poser de soucis. On va donc avoir le droit à un des deux cousins face au numéro 1 mondial au troisième tour, sauf accident. De quoi faire trembler la planète tennis si le vainqueur de la cousinade arrive ensuite à créer l'exploit en faisant tomber le meilleur joueur du monde. De quoi écrire un peu plus leur histoire. Bref, cette semaine à Paris promet du très très lourd, et si l'exploit ne vient pas de ces deux cousins, alors on peut quand même compter sur Corentin Moutet, Alexandre Muller ou encore Arthur Cazot, toujours en lice après leur victoire au premier tour, pour nous faire vibrer et aller chercher un résultat. Croyez-moi, j'ai bien hâte de suivre tout ça. Et on a aussi une grosse annonce à faire aujourd'hui, parce qu'on a eu enfin le dernier match de la carrière de Nicolas Mahut, un Angevin, hein, quelqu'un qui vient de notaire. Alors Nicolas Mahut, c'est quoi? C'est 43 ans, on peut le féliciter pour sa carrière, parce que c'est numéro 1 mondial en double, 5 titres de Grand Chelem en double, des belles performances en simple avec 4 titres ATP. Et il est aussi par ailleurs connu pour avoir disputé le match le plus long de l'histoire du tennis professionnel contre l'américain John Isner lors du tournoi de Wimbledon 2010, sur une durée de 3 jours. Un des plus grands sportifs, donc, Angevin, hein, qui raccroche la raquette. Est-ce que vous, les gars, comme ça, vous gardez des souvenirs de Nico Mahut en particulier?
J'ai pas de souvenirs particuliers, parce que Mahut, on a surtout grandi avec lui. Honnêtement, c'est quelqu'un qui nous a porté. C'est aussi quelqu'un qui, en tant qu'Angevin, nous a donné aussi un intérêt pour le tennis. Hein. On a vraiment... Enfin, moi, j'ai toujours connu Mahut sur les cours. Alors après, c'est assez évident, hein, pour le coup, puisque j'ai commencé à suivre le sport... je sais pas, je dois avoir une dizaine d'années, donc voilà, ça fait 15 ans. Nicolas Mahut, il était déjà sur les cours, mais c'est quelqu'un qui a supporté le sport angevin aussi, sans jamais le renier. On l'a souvent vu faire des choses aussi dans le département, notamment, alors je sais plus, j'ai perdu le nom de la compétition, mais à Trélazé, la compétition féminine, il l'a quand même aussi un petit peu porté en la relayant médiatiquement.
Donc, oui, avec l'Arena Loire, l'Open d'Angers féminin, oui, qui a lieu à l'Arena Loire, oui, tout à fait.
Donc du coup, il y a ces moments-là aussi forcément à mettre à son actif. Donc bien sûr, Mahut, moi, c'est quelqu'un qui a été très marquant.
Ouais, et puis forcément, dans le palmarès rien que du tennis français, je sais pas ce que t'en penses, Paul, mais en tout cas sur les titres en double, avec sa doublette Pierre Hugerbert, moi j'ai des souvenirs à Roland-Garros. Forcément, entre le simple et le double, c'est vrai que c'est pas pareil, mais quand même, quand tu vois deux Français sur le Philippe Chatrier en finale de Roland-Garros, ça fait plaisir.
Bah justement, c'est ce que j'allais te dire, c'est les souvenirs des finales en double avec Pierre Garbert, ces nombreuses finales qu'il a fait, et puis c'était souvent marquant de voir quand même des Français sur le court pouvoir remporter ce titre. Mais c'est quand même un joueur que j'ai trouvé très intéressant pour déjà cette histoire de match le plus long de l'histoire. Ouais. Et surtout, d'avoir quand même trouvé quelqu'un. Enfin, c'est pas facile, je pense, dans le tennis moderne, d'avoir une doublette aussi qui marche autant. Et je pense d'avoir trouvé quelqu'un comme Pierre Hugerbert qui a autant marché avec lui. C'était quelque chose de quand même de. Enfin, je pense que de pas normal dans le tennis, et d'avoir autant marché pendant des années. Je pense que ça a bien fait montrer que la France était quand même encore un pays de tennis sur ce niveau-là.
Exactement, parce qu'il a aussi la Coupe Davis à son actif. Donc non, c'est vrai que Nicolas Mahut, il a apporté des très belles choses pour le tennis français. Donc c'est vrai que c'est un grand du tennis qui raccroche la raquette aujourd'hui. Il le disait en interview d'après match, il a l'impression que sa carrière elle est passée en un claquement de doigts. Et nous, on lui souhaite derrière de pouvoir continuer à essayer d'élaborer ses projets et pourquoi pas un jour venir ici hein, si ça le tente. On verra bien.
On l'accueillera avec plaisir.
Exactement. Bon, maintenant on a aussi d'autres Français qui performent dans le monde du sport. Comment vous dire ? Le basket américain a repris et je n'ai même pas trouvé de mots suffisamment forts pour décrire cette première semaine de basket outre-Atlantique. Tout a été incroyable, de la soirée d'ouverture avec un OKC Rockets en double prolongation, aux performances incroyables de Luka Doncic taille patron, aux 16 points de suite de Stephen Curry pour amener ses Warriors en prolongue face à Denver pour finalement s'imposer, aux multiples performances à plus de 50 points de certains joueurs en finissant par la première semaine complètement irréelle de notre Frenchie Victor Wembanyama. Il a été élu joueur de la semaine de la conférence Ouest et comment vous dire, on s'attendait à ce qu'il ait passé un step et qu'il soit très fort sur un terrain, mais là ça dépasse clairement les attentes d'absolument tout le monde. Le gars est absolument inarrêtable pour son premier match face aux Mavs d'Anthony Davis, un des meilleurs défenseurs de la ligue et une équipe qui a transféré quand même Luka Doncic, car je cite, la défense fait gagner des titres. Wemby leur a littéralement roulé dessus avec 40 points, 15 rebonds et 3 contres, portant ses Spurs vers la victoire. Un coup d'un soir ou un réel message envoyé par Wemby pour annoncer qu'il est officiellement un des meilleurs joueurs de la ligue, candidat au titre de MVP, candidat au titre de défenseur de l'année et prêt à tout pour aller loin avec ses Spurs. La bonne réponse, c'est la deuxième. Et oui, car sur les 3 matchs qui ont suivi, Wemby a envoyé 29 points, 11 rebonds et 9 contres face aux Pelicans, puis 31 points, 14 rebonds, 4 passe, 3 interceptions, 6 contre. Vraiment, c'est bluffant. Ça, c'était face aux Nets. Et enfin, la nuit dernière, face aux Raptors, 24 points, 15 rebonds, 4 passes et 1 contre. Bien content de me lever à 2h du mat à chaque fois pour pouvoir voir le Wemby national qui perf sur les terrains NBA. Des stats à nous faire rafraîchir la page plusieurs fois, à nous pincer ou encore à nous frotter les yeux. Le gars est surhumain. Et si c'était vraiment un alien, c'est la seule explication valable quand on voit ce qu'il est réellement capable de faire balle en main, avec des dribbles dans le dos, entre les jambes, une fluidité d'un type d'1m90, alors qu'en fait, accrochez-vous bien, il en fait 2m24. Bref, que vous soyez fan de basket ou fan de sport, je vous encourage fortement à vous brancher sur un match de Wemby cette saison pour voir de vos propres yeux le phénomène qu'il est. Et vous verrez, vous allez aimer, et au fait, c'est français. Alors on va continuer de suivre ce début de saison absolument fou NBA en gardant un œil sur Wemby, voire deux, tellement il est grand, et sur les autres Frenchies qui pourront peut-être à leur tour laisser une empreinte dans la ligue, comme est en train de faire Victor Wembanyama.
Faut se brancher. Voilà, faut se brancher NBA c'est quand bon. On est français, c'est l'évidence. On va passer du ballon orange au ballon blanc, au ballon jaune aussi de la Liga. On va parler du Classico, Paul.
Et oui, car ce dimanche 26 octobre, le Real Madrid recevait le FC Barcelone au Santiago Bernabéu dans le cadre de la 10e journée de Liga. Une affiche entre les deux premiers du championnat, le Real leader avec 2 points d'avance sur son rival catalan, avait l'occasion de prendre le large. Si du côté madrilène, seul Rudiger et Alaba manquaient à l'appel, le Barça devait se passer de Rafinha, Lewandowski, Olmo, Gavi et Juan Garcia. Les locaux entraient parfaitement dans leur rencontre. Dès la deuxième minute, Vinicius Junior pensait obtenir un penalty après un contact avec Lamine Yamal, mais la VAR annulait finalement la décision. Quelques instants plus tard, Mbappé croyait ouvrir le score avant de voir son but refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Le Français finit tout de même par trouver la faille à la 22e minute sur une magnifique ouverture de Jude Bellingham, confirmant son excellent début de saison. Mais à la 38e minute, Fermín López profite d'une perte de balle d'Arda Güler pour remettre les deux équipes à égalité. Le Real réagit presque immédiatement. 5 minutes plus tard, Bellingham, déjà passeur décisif, redonne l'avantage aux siens sur une remise d'Eder Militao. Au retour des vestiaires, l'intenable milieu anglais provoquait un pénalty après une main d'Alex Garcia. Mais Mbappé voyait cette fois sa tentative stoppée par un Chesney impérial qui maintient le Barça en vie. Insuffisant toutefois, le Real s'impose pour la première fois dans un Classico depuis plus d'un an et demi et conserve la tête du championnat, désormais avec 5 points d'avance sur son adversaire du soir. Seul point un peu négatif de la soirée, c'est cette sortie à la 70e de Vinicius Junior qui s'est énervé contre Xabi Alonso. On espère que ça se passera mieux dans les prochains matchs. Qu'avez-vous pensé de ce match, messieurs?
Ça va aller, t'inquiète pas.
Bah écoute, Paulin, le grand fan du Barça.
Ouais, bah,
comment ça s'est passé?
Je sais pas, j'ai envie de m'enterrer, hein, clairement. En plus, j'ai regardé que la première mi-temps parce que j'ai fait le choix d'aller voir le SCO au stade parce que c'était le seul week-end où je pouvais aller au stade. Et en plus, je trouve ça après intéressant d'en parler à la radio. Donc, j'ai regardé le match le lendemain. J'avais même pas envie de regarder le match, honnêtement, parce que, voilà, la deuxième saison d'Antiflic, j'ai l'impression que ça se passe toujours un peu comme ça. Et honnêtement, là, notre piège du hors-jeu, il ne fonctionne absolument plus. Quand on a la qualité d'un joueur comme Mbappé et que ton alignement, il est pas parfait. Déjà que sur le premier but, excusez-moi, mais la reprise d'Mbappé, elle est exceptionnelle et qu'il soit refusé pour aller un centimètre, c'est déjà assez compliqué pour les fans madrilènes. Et non, franchement, là, on a, enfin. C'est une défaite méritée, une victoire méritée pour le Real Madrid, même si ça fait mal de le dire, parce qu'ils ont été meilleurs, même si forcément c'est un Barça qui a la possession du ballon, parce que c'est dans notre ADN. Derrière, le Real, ils peuvent en mettre 3, 4 de plus, parce que forcément, il y a eu des buts refusés aussi pour hors-jeu, et on n'a pas su avoir cette main mise... En fait, on a eu cette main mise sur le ballon, mais on n'a pas su l'exploiter. On n'a pas su casser la première ligne de pressing qui n'est absolument pas dangereuse de Vinicius et Mbappé, pour essayer derrière de créer des décalages. Lamine Yamal, honnêtement, c'est 0 sur 10 en son match, hein. Il y a quasiment rien à en retirer parce que, voilà, alors, qu'on soit au courant de ce qu'il a dit avant le match ou pas, c'est même pas tant le fait que t'as parlé, tu dois assumer, mais c'est que t'as quand même ce rôle de maintenant de joueur star du Barça que tu dois assumer. Dans un classico, c'est là qu'on te regarde le plus et que tous les yeux sont braqués sur toi. Et en plus, Pedri qui sort pour un carton rouge dans les derniers instants. Bon, même si le prochain match c'est contre Elche, voilà, c'est pas si grave que ça. Mais non, franchement, c'est un match qu'on doit revoir et on doit essayer de s'en servir pour améliorer les choses.
Des tendances qui s'inversent, hein, globalement entre le Real et le Barça, ça c'est assez marquant aussi. Donc à voir si le Barça arrivera à retrouver aussi de la forme avec le retour notamment de Rafinha.
Évidemment, il nous manque énormément.
Forcément. Et puis le retour aussi en forme, pourquoi pas de Yamal, puisqu'on n'arrête pas de voir aussi via des interventions médiatiques qu'il y a telle excuse, il y a telle excuse, il y a telle excuse. Est-ce que c'est ça qui fonctionnera au niveau médiatique jusqu'à la fin de la saison? On verra. En tout cas, on va quitter le football pour passer vers les sports de combat, parce que ce week-end à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi, il y avait l'UFC 321 qui devait nous offrir un choc titanesque entre les deux meilleurs poids lourds du moment, Cyril Gane et Tom Aspinall, détenteurs de la ceinture. Mais au lieu du feu d'artifice promis, on a eu un écran noir, le décor était parfait, la tension maximale. Gane avait quitté la France pour un long camp d'entraînement, et puis face à lui il y avait Aspinall, 9 fois vainqueur à l'UFC avec un seul deuxième round dans sa carrière. Et pourtant c'est bien le français très inspiré qui a pris les devants dans le début du combat. Un Gane qui s'est même offert le luxe d'un joli cross intérieur qui a mis en sang le nez du britannique. Mais à 30 secondes de la fin du premier round, tout bascule sur un enchaînement défensif banal. Cyril Gane tend la main gauche pour garder la distance et son doigt vient accrocher les deux yeux d'Aspinall, un eye poke double. L'arbitre donne 5 minutes au champion anglais pour récupérer, mais rien n'y fait. Aspinall ne voit plus de l'œil droit, incapable même de l'ouvrir. Combat arrêté, no contest. Un résultat rarissime pour un combat, seulement la deuxième fois dans toute l'histoire de l'UFC que cela arrive. C'est de la frustration pour Gane, pour tout le monde, sauf pour peut-être Tom Aspinall, qui était plutôt dans la tourmente depuis depuis le début du combat. Gane qui a perdu une victoire potentielle, mais qui a su retrouver du crédit. En tout cas, selon les premières informations, Gane Aspinall 2 ne pourrait pas avoir lieu avant février 2026. Hein, le calendrier de l'UFC étant déjà très complet jusqu'à la fin de l'année. Le rematch pourrait se tenir donc le 9 février à Sydney, sauf changement de programme. Est-ce qu'autour du plateau, on a vu le combat passer? J'imagine que c'est beaucoup de déception aussi de votre côté, en tant que Français principalement, et puis derrière en tant que fan de sport de combat aussi, Paul.
Ouais, j'ai regardé un peu en même temps que Marseille-Lens, et honnêtement, quand tu vois que le match est arrêté pour ces deux petits doigts qui viennent embêter les yeux de Aspinall, ça fait un peu mal de se dire que ça s'arrête pour ça. Que malheureusement, même si j'ai vu que il y avait quand même deux médecins saoudiens qui ont regardé après le match et au final que ça allait très bien pour ses yeux après et que c'est dommage d'arrêter pour ça, mais bon, malheureusement c'est l'intégrité physique du combattant qui a été mis en cause, et du coup je pense que c'est assez logique que le match soit reporté, mais c'est dommage pour le spectacle parce que ça peut embêter un peu pour Cyril qui quand même était très bien parti dans ce match et méritait pour l'instant de gagner ce premier round.
Aspinall, il a peut-être joué aussi de ses cartes. Maintenant, on a eu quand même aussi des kinés qui sont venus, qui ont dit que potentiellement Aspinall ne pouvait plus jouer, en tout cas avait pu ne pas voir à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était pas forcément bidon, donc on va se contenter aussi de ces excuses-là. Mais Paulin, toi, j'imagine aussi que ça t'a fait plaisir de voir que Gane, il est capable de revenir face à un champion comme Aspinall aussi, qui est un véritable rouleau compresseur de l'UFC, et faire ce qu'il a fait. Alors après, forcément, là, il a fait même pas un round. On sait qu'un combat d'UFC, c'est très long, hein, donc forcément il faut les tenir, mais ça t'a fait plaisir aussi de revoir Gane à ce niveau-là après tout ce qu'il a vécu.
Ouais, c'est ça. Surtout que moi, je suis absolument pas un adepte des sports de combat. Et là, pour le coup, je trouve à chaque fois c'est l'occasion. Puis on en entend parler. Donc pour le coup, j'étais devant. Mais moi, personnellement, enfin, mets-moi les mains de, enfin les doigts de Cyril Gane dans mes yeux. Enfin, je perds la vue quoi quand tu regardes l'action. Clairement. Genre, en fait, pour moi, c'est logique que il puisse pas continuer parce que ça va l'handicaper. Genre si voilà, s'il voit moins bien, même si c'était pas si grave que ça, bah derrière il peut se faire enchaîner. Donc c'est normal pour moi la décision. C'est juste complètement décevant parce que après avec le show, les médiatisations, la préparation de Cyril Gane qui avait l'air d'être assez exceptionnel, de tout ce que j'ai entendu là, il s'était quand même isolé pendant quelques mois pour être au max, pour être au max vraiment sur ce combat. Et c'est pour ça que l'image quand on le voit à genoux dans le ring, bah c'est compliqué, mais forcément, enfin voilà, peut-être que ça va le renforcer et peut-être qu'il arrivera encore à revenir plus fort et se dire cette fois-ci c'est la bonne, je gagne.
En tout cas, Cyril Gane n'est pas fini pour le sport de haut niveau. Je te laisse le mot de la fin, Paulin, si tu veux. On va se quitter, donc je te laisse nous faire. Je sais pas.
Écoute, complètement.
S'envoler.
On va se retrouver du coup mardi prochain avec énormément d'infos forcément à vous proposer. À noter que les Ducs d'Angers gagnent pour l'instant 1-0 face à Sergi Pontoise. On espère qu'ils pourront gagner cette rencontre et on se laisse là-dessus pour cette soirée. Bonne soirée à tous. You're in the dark.